précédemment dans À guichet fermé. Hey Raph!
Hey Rudy!
Dis, je commence à m'inquiéter pour toi. Tout seul devant ton PC à devoir trouver à chaque fois une nouvelle idée pour introduire le podcast, même si je suis convaincu de ton génie. Ah, arrête! Non, j'insiste Raph! La brillance de ton esprit est à l'image du feu qui anime ta chevelure. Ah, petit flatteur, va. Mais viendra un jour où même un intellect comme le tien sera à bout d'idées. Que ferons-nous ce jour-là? La population belge a besoin d'une intro originale aujourd'hui plus que jamais. N'aie crainte, mon fidèle destrier. Je puiserai au fond de mon âme les mots pour présenter À guichet fermé, le podcast des humoristes sans public. Je leur dirai que ce sont 60 minutes de causerie entre amis du monde de l'humour qui discutent de leurs sentiments, de leurs vannes et beaucoup, beaucoup de leurs bites sur scène. Mais c'est pas tout! Je leur déclamerai haut et fort que non, je ne suis pas seul à faire face au microphone de fer. À mes côtés, un mâle harlonnais à la pilosité faciale proéminente, perdu dans la grande métropole bruxelloise, puis expatrié dans le Brabant wallon, vivant en symbiose avec une femme, un chien, un cheval, deux poules et sept chats. À ses côtés, je ne crains ni l'hiver ni l'ennui, car toujours de bonne humeur, c'est ce brave Rudy.
Bah dis donc, j'allais me moquer de l'imitation du début du sketch, hein, parce que ça devient un sketch, hein, c'est à peu près 20 secondes à chaque fois, mais je suis très flatté par la suite de la présentation.
Mais pourtant c'est exactement ta voix, hein, juste pour dire. Mais mes amis, nous ne sommes pas au bout de nos péripéties, car une introduction épique introduit évidemment un invité épique. C'est l'un de nos humoristes préférés. Le mec dont vous direz plus tard « Ah, mais ouais, je l'avais vu au What the Fun avant qu'il perce », la supernova montante de l'humour belge, c'est Ino JP. Okay, et on a perdu Ino JP.
Non, mais oui.
Voilà, c'était le moment où tu pouvais intervenir, Ino.
Tu lui as dit
voilà,
« s'il veut ». Tu lui as dit « s'il veut ».
Non, mais je me retiens de rire depuis le début. Et puis le moment où je peux m'exprimer, je dis rien. Bravo, Raph. C'était épique aussi comme intro, franchement.
Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Voilà, un micro dans la main, une heure à pourfendre, trois chevaliers de la vanne au bout du fil. C'est parti pour l'épisode numéro 21. Et nous voilà de retour pour l'épisode numéro 21 avec un invité qu'on voulait inviter depuis longtemps parce qu'on le connaît très bien. C'est un habitué des scènes du What the Fun. C'est vraiment un des meilleurs éléments de la scène belge de l'humour. Mais honte à ceux parmi vous qui ne seraient par hasard pas, qui sait. Mais comme toujours, on a Rudy à nos côtés pour nous présenter notre invité d'aujourd'hui qui est Ino JP.
Yes, alors, moi aussi je vais aller dans les pics. Il est dans le petit monde du stand-up belge un être légendaire et discret. Une force tranquille qui frappe fort. Omniprésent car il est impossible de se souvenir d'un temps où il n'était pas sur scène. Omnipotent tant il est respecté sur les plateaux bruxellois. Et omnivore, probablement car je n'avais plus d'adjectif pour continuer cette allitération. L'homme, c'est Jean-Paul Van Giel, alias JPVG, ou plutôt Ino JP. Et si vous ne l'avez pas encore vu sur scène en Belgique, c'est que vous n'avez tout simplement jamais vu de stand-up, car il a tout fait chez nous. Les classiques, Kings of Comedy Club, What the Fun, MIB, Cook's Comedy Cat, You Rire, Nord de Rire et toute une série de plateaux des plus obscurs. Mais il est aussi de tous les grands événements bruxellois comme Rire Ensemble au Palais 12 ou le Kermezzo à l'époque, le Grand Pestacle, mais aussi les festivals d'humour régionaux comme Rémicourt ou Rochefort. Mais vous l'avez peut-être aussi déjà vu à des trucs random, comme dans les auditoires ou en festival de musique de la CEMO ou à une scène d'humour francophone à Berlin, car Ino JP n'a peur de rien. Mais d'où vient notre Bounty préféré? Quand est né le mythe de l'humour aux trois mamans? A-t-il un jour réellement travaillé chez Ino? Retour dans le passé. Tout commence en été 2014, où, forcé par son pote Dave Parker, que l'on connaît bien, il s'inscrit à l'Académie du Kings of Comedy Club. Lors de cette formation, qui n'existe plus de nos jours, un petit groupe d'artistes novices se voit expliquer les ficelles de l'humour, avec pour objectif un 5 minutes sur scène. Après le succès de cette première tentative, et motivé par ses pairs, Ino prend goût à la scène et formera avec ses compagnons de classe le Gang Bang Comedy, pour remonter régulièrement sur scène. Jeu de mots passé assez horrible, il fallait que je puisse le citer. En décembre 2014, il devient le quatrième gagnant d'une Experience of Comedy après Laura Lone et Guillermo Guise pour finalement avoir une carrière quasi similaire. Mais quelques années plus tard, il est admis à la fameuse École nationale de l'humour de Montréal. Là-bas, l'humour est un véritable métier de rigueur dans une ville où le stand-up est très établi. Il passe un an et demi là-bas et reviendra en Belgique avec un nouveau souffle. Il gagne le prestigieux concours du Best de l'humour à Paris et enchaîne quelques très belles scènes. Il passe en TV sur la 2 dans le gala des 10 ans de scène de Cody, mais aussi surtout sur Canal+, dans le plateau derrière un micro de Kian Kojandi, plateau de luxe que tout le monde lui envie. Il écrit pour Cody dans les Magritte et sera engagé pour faire les premières parties de Blanche Gardin à Paris. Mais Inno JP, c'est aussi une carrière de chroniqueur. Radio d'abord, où il fait plusieurs passages sur des émissions de Pure FM, de la première et sur le Cactus de Vivacité, et TV aujourd'hui dans Ici et pas ailleurs sur LN24. Et ça y est, seulement après 5 ans de carrière et la pression de l'attente de ses fans et collègues humoristes, cet été, Inno sort enfin son premier spectacle avec lequel il entend conquérir la francophonie, True Story. Entre anecdotes incroyables, observations fulgurantes et syndrome de l'imposteur de Stockholm, JP raconte sa vie comme une longue blague et on espère qu'elle ne s'arrête jamais. Plus récemment, il joue dans cette série dont on vous rabâche les oreilles, Les Anonymes, coproduite avec la RTBF. Inno y joue le médiateur de groupes de soutien complètement barrés où il essaye tant bien que mal d'aider des misogynes anonymes, des influenceurs anonymes ou encore des gens qui laissent des messageries rigolotes anonymes. Un rôle de mec en contrôle, rôle qui lui va à merveille, même si jamais personne n'aurait pu imaginer JP dans ce rôle. Vous l'aurez compris, Inno JP, c'est un humoriste très apprécié dans le game et dont on va de plus en plus entendre parler à l'international à l'avenir. Vous l'aurez aussi compris, c'est un gars qui aime prendre son temps, n'en déplaise aux organisateurs d'événements quand ils l'attendent. Mais Inno JP, c'est surtout un très bon humoriste et le pote de tout le monde à Bruxelles. Je pense pas qu'il y ait une personne qui ne t'aime pas comme personne ou comme stand-upper dans le monde de l'humour en Belgique. Et ça, c'est très étonnant. Je suis sûr que tu as un lourd secret. Bref, Inno JP, notre pote, prochain prince de la vanne, est avec nous aujourd'hui.
Oui, oh yes, bonjour.
Eh ben, voilà mec. Inno. Alors Inno, c'était ouais. Complet. Est-ce qu'on a zappé une info?
Non, mais oui. Évidemment, il y a tout le dark side, mais heureusement, celui-là, il est plus discret. Mais ok, ben merci pour cette intro de feu, Rudy. Tu sais, ça me fait un peu penser. Il y a un podcast que j'écoute régulièrement, un truc anglophone qui s'appelle Impact Theory, un truc de développement personnel à la Once Again, avec un gars qui s'appelle Tom Bilyeu. Et en fait, il a interviewé quand même des grosses stars, genre, Anna Kournikova ou des gens qui ont fait des grosses carrières sportives ou autres. Et il fait toujours des intros de fou furieux. Et même si c'est des gens que tu connais, tu vois, des gens dont tu connais la carrière, et ben toi-même, t'es surpris. Et les gens eux-mêmes, quand ils ont une carrière internationale et tout, ils arrivent, ils sont là. Wow, I didn't know I did all that. Et en fait, avec tes intros, on a un peu la même impression, quoi. Tu vois,
ça me fait plaisir.
Merci.
C'est ça, en fait. On est. À guichet fermé, c'est juste une heure où on se fait des compliments non-stop.
Ouais, mais non, mais voilà. Mais en fait, est-ce que c'est pas ce qu'on cherche tous, quelque part, sur scène, tu vois, cette sensation-là, à la fin, que de dire...
Voilà une question très intéressante pour commencer le podcast, Inno. Est-ce que c'est ce que toi, tu cherches sur scène? Qu'est-ce que tu cherches sur scène, en fait?
Ah là là, mais
c'est parti psychologique vraiment vite, hein, ça c'est...
Ouais, j'avais d'abord, je voulais poser des questions par rapport à la seconde vague, mais en fait, je trouve ça plus fun. On va directement commencer dans le vif du sujet.
C'est vrai, pour un mois de novembre, c'est quand même pas mal d'avoir pas mal de lumière. Enfin, on peut partir là-dessus. Non, mais c'est vrai, franchement, en plus, c'est exceptionnel. Moi, ça fait 2 jours que je me balade et je me dis, on a de la chance d'avoir autant... Je sais pas quand cet épisode va être diffusé, mais si vous avez entre le 5 et le 8 novembre pu profiter du soleil en confinement, parce qu'en plus en Belgique on n'est pas trop...
Et le mec, non, il va partir, il en a rien à foutre des questions. Il en a rien à foutre.
Oui, il s'en branle les questions, hein. C'est vraiment... On dirait un politicien, tu lui poses une question, il est là, ouais, je vais parler de la météo, je vais clairement parler de la météo.
J'ai le lever du soleil derrière moi.
Qu'est-ce qu'on pense des élections américaines?
Je suis obligé de le placer, qu'est-ce que tu veux?
Surtout qu'il fait noir là, tu vois, on voit rien dehors, quoi.
mais voilà, justement, c'est ça qui se passe. Non, mais en gros, voilà, non, mais sur scène, mais là aussi, on cherche la lumière, quelque part. Oui, hein? Non, mais on cherche à... En tout cas, je pense que les applaudissements, les cris, les rires et tout, quant à ça, ben, ton ego bronze. Voilà ce qui se passe. Et comme on a des égos fragiles qui ont besoin de beaucoup justement de vitamine C, et ben, ils ont besoin de ça. Moi je sais que j'ai besoin de ça. Mais après, non, juste pour terminer. Non, mais laissez-moi terminer, monsieur Kamachi. Non. Mais parce que j'en parlais avec Julie Lagrande, parce qu'à un moment, moi, je remets souvent les choses en question, où je me dis, ah non, je vais tout arrêter, ça n'a aucun sens. Parce que de toute façon, ça n'a aucun sens, mais il y a des moments où je me dis, je vais arrêter, et des moments où je me dis, ça n'a aucun sens, mais je vais quand même continuer. C'est de se dire que sur scène, ce qui est vraiment chouette, c'est de se sentir compris. Je sais pas si vous avez ça, mais si quand tu arrives à exposer une idée, à quelque part communiquer un truc personnel, mais que avec ce truc pourtant personnel et intime dont tu as l'impression que tu es que le seul à l'expérimenter, tu arrives à connecter avec toute une série d'inconnus plongés dans le noir ou pas, mais genre, tu vois, la connectivité, quoi. Je pense que c'est vraiment ça que je cherche, le fait de connecter avec les gens et du coup, par ricochet, de se sentir moins seul. Voilà.
Je trouve ça très intéressant. Oui, c'est bien, t'as répondu à la question, et non, merci beaucoup. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, il y a certains humoristes qui ont plus facile à connecter avec le public quand ils sont sur scène que quand ils sont pas sur scène. Et donc, quand ils descendent de scène et qu'il y a... Mais je crois pas que c'est le cas chez toi. Toi, j'ai l'impression que tu papotes beaucoup avec le public après le show, tu parles de tes vannes, tu leur demandes des conseils, t'es quand même très à l'écoute du public après un spectacle, non ?
Ouais. Ben justement, je suis à la recherche de ce feedback pour savoir si la connexion a eu lieu quelque part, tu vois, donc c'est un peu, je suis un peu un espèce de tu vois, de vieux sur un meeting Zoom, là, qui est là, vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez? Et bah, du coup, après le spectacle, c'est un peu ça, est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que c'était clair? Et donc, il y a un peu ça, mais après, je sais que je suis pas spécialement aussi à l'aise dans les relations interpersonnelles que parfois sur scène, sur les choses vraiment intimes. Donc voilà. Mais c'est aussi parce que j'ai découvert il y a pas longtemps que j'étais pas si extraverti que je le pensais. Mais bon, voilà.
Mais il y a beaucoup d'introvertis qui font de l'humour. Hein.
Mais oui. Et en fait, moi, le truc, c'est que j'ai longtemps fait la fête et tout. J'ai longtemps, été du monde de la nuit et de la vodka. Et à ce moment-là, bah, évidemment, je parlais à tout le monde et parfois bien trop. Et donc, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'extraverti qui avait besoin de parler à beaucoup de gens. Tu vois, j'appelais mes potes à n'importe quelle heure pour dire n'importe quoi. Mais en fait, maintenant que tout ça s'est un peu calmé, que la poussière est retombée, je me suis rendu compte que je faisais partie aussi de ces gens qui rechargent plutôt leur batterie tout seul.
Est-ce que c'est pas plutôt l'approche de la quarantaine qui fait ça?
Et c'est l'âge aussi, je pense.
Oh, le coup bas, le coup bas. Ça, il l'a pas mis dans ta présentation.
Avec l'âge, on a moins l'énergie. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer. Tu vas juste parler. Il va pas. Tu vois, c'est pas comme à l'époque où ça pouvait terminer en after jusqu'à 5h du mat. Et on sait. Tu vois, là, il n'y a pas. À part l'espoir de. Je sais pas, d'un sushi tardif, il n'y a pas de grand, bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que en sortant de scène, j'aime parler avec les gens, mais pas trop, ça dépend. Mais le truc, c'est que tu sors, tu as une énergie aussi, tu vois, tu as cette espèce d'adrénaline post-scène qui fait que tu as encore envie, tu vois, c'est un peu comme si tu avais pédalé à fond. Et tu profites encore, là t'arrêtes de pédaler, mais tu profites encore de l'élan que t'as sur ton vélo, tu vois, jusqu'à ce que ça s'arrête. Et une fois que ça s'arrête, ben, tu descends du vélo et puis tu vas dormir.
Est-ce que c'est pas le moment où justement ton bronzage est fait et que tu vas venir un peu le montrer aux gens ?
Voilà, en plus il y a ça, en plus, c'est oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est que tu as envie, ça ouvre une fenêtre, si on était dans un jeu vidéo, ce serait le moment où t'as pas une cape d'invisibilité, mais une cape peut-être un peu d'invincibilité, ah. Où tu vois, un moment, tu vois, de timer comme ça, où pendant un moment, ben, t'es, en tout cas, quand une scène s'est vraiment bien passée, t'es la personne que t'as envie d'être, quelque part, t'aimerais tout le temps être regardé comme on te regarde à ce moment-là, sauf que tu sais que ça va pas durer longtemps, donc tu te dis, il faut que j'en profite, il faut que j'en profite maintenant, je dois aller serrer des mains parce qu'après, le carrosse se retransforme en citrouille, tu vois, donc quelque part, tu profites de ce moment-là aussi, parce que tu sais qu'il est éphémère, ouais, il y a ça aussi. Hein.
Et du coup, dans tes échanges avec le public après le spectacle, je devine qu'il y a beaucoup de compliments, des choses comme ça. Maintenant, je devine aussi que parfois, il y a des discussions sur le fond des thématiques qui sont abordées. Maintenant, ouais. ce que moi je trouve intéressant dans tes sketchs, dans ton spectacle, Ino, c'est que tu fais partie des humoristes, selon moi, qui vont, à côté du fait de faire rire, qui vont aussi essayer de jouer avec la limite de ce que pensent les gens, qui vont peut-être essayer de changer les mentalités, peut-être indirectement, parce que c'est pas comme si tu étais sur scène et que tu faisais un plaidoyer politique, mais par tes blagues, il y a quand même clairement une prise de position sur plusieurs questions. Alors, ouais. pour certains humoristes, c'est pas du tout l'objectif, mais est-ce que c'est un effet secondaire de ton écriture, ou bien est-ce que tu te dis parfois quand tu t'assieds pour écrire, ou bien quand simplement t'es en train de réfléchir, tu te dis tiens, j'aimerais quand même bien aborder cette thématique-là qui me tient à cœur et je voudrais en parler dans mon spectacle.
Ben, les deux, dans le sens où, moi, ben, comme Rudy l'a si bien résumé là tout à l'heure, j'ai commencé avec la Kings of Comedy Academy, où notamment, on avait comme professeur Dan Gagnon, et qui lui nous disait, avant d'être marrant, essayez d'abord d'être intéressant, quoi. Donc, essayez de, tu vois, le triptyque gagnant, c'est de réussir à être intéressant, divertissant et drôle, tu vois, mais qu'au moins, si t'es pas drôle, ben au moins, voilà, c'est divertissant et intéressant, et si c'est aucun des deux, ni divertissant ni drôle, au moins c'est intéressant, au moins les gens auront appris quelque chose, et quelque part, quand t'as pas encore beaucoup de confiance, ben tu peux te rabattre un peu là-dessus en disant, ben c'est pas grave, au pire, même si les gens rigolent pas, j'aurais dit quelque chose d'intéressant qui leur a appris un truc. Et moi, je sais que j'avais un peu ça, d'une part, c'était, et puis même à l'école de l'humour aussi, après, dans l'enseignement qui était donné, c'était aussi de se dire, ben si tu veux aborder un sujet, pose-toi vraiment la question de qu'est-ce que toi, t'as envie de dire sur ce sujet-là, tu vois. Parce que de toute façon, tout a déjà été abordé, tout a déjà été fait, tout a déjà été dit, mais pas par toi. Donc du coup, ce que toi tu peux apporter de différent, c'est ton angle, ton regard sur même un truc hyper bateau, hein, même sur l'eau plate, toi t'as des choses, il n'y a que toi qui peux dire certaines choses sur ton expérience de l'eau plate, alors qu'on est 7 milliards à boire de l'eau tous les jours. Enfin non, enfin oui, ça, bon, ça fait partie de ça. Enfin bref. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai que moi je me demande souvent, ben, avant d'écrire un truc, qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus. Mais d'un autre côté, aussi parfois, c'est les sujets viennent avant. Genre, il y a un truc qui me travaille, tu vois, pendant le confinement, il y a toute l'histoire Black Lives Matter et tout. Et j'étais là, je ne peux pas ne pas en parler, mais de deux, ça me touchait tellement personnellement, et c'était tellement présent dans mes réflexions au quotidien, que naturellement, ben, j'ai eu envie de faire des blagues là-dessus. Parce que c'est ce qui me travaillait, quoi, tu vois, parce qu'il y a ce truc d'essayer de comprendre des choses aussi, parce que, voilà, je pense que la scène aussi, moi, ça me permet de pousser un peu la réflexion personnelle aussi sur des trucs, tu vois, de savoir comment désamorcer aussi certaines choses qui m'apparaissent dans un premier temps ennuyantes, douloureuses ou effrayantes ou incompréhensibles. Donc, il y a ça, et je voulais dire un dernier truc, mais je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est pas, je me dis pas, ah, moi je vais faire de l'humour à message, absolument pas, c'est vraiment pas, j'ai vraiment, comme je te dis, d'abord c'est la connectivité que je cherche, tu vois, donc c'est ça aussi, c'est que parfois t'arrives devant un public et t'as un sketch qui parle d'un truc que t'as vraiment envie d'aborder, puis tu te rends compte que les gens, ben voilà, ça va pas vraiment passer, et tu pars sur autre chose au détriment, hein, de ce que t'avais envie de dire ou même de ce que t'avais envie de tester ce jour-là.
Ah, ça me rappelle une scène à jette avec toi, ça, moi.
Ouais, avec le porno.
Je sais pas si... Exactement, ouais. Je crois que c'était une des premières fois. En tout cas, pour moi, c'était la première fois que je voyais ton sketch sur la masturbation et le porno. Et on était à Jette dans une scène où la majorité, on va dire la moyenne d'âge, c'était 60-65 ans. Mm-hmm. Et en coulisses, on était quatre humoristes à mourir de rire, de un, parce que ce que tu disais était rigolo, et de deux, parce que toutes tes punchlines passaient complètement au-dessus de la tête du public, et il n'y a personne qui rigolait à tes vannes. Et on voyait juste que tu étais en mode, bon, on va passer à autre chose. Et donc, juste, t'as switché, quoi.
Ouais, et c'était vraiment comme lancer une lance dans le vide et qu'elle se plante jamais dans rien. Et c'était. Mais ça, justement, et je pense que c'est Bill Burr qui dit dans je ne sais quelle interview que tu dois être vraiment prêt à ditcher tous tes sujets, même juste avant de monter sur scène. Et même, je suis en train de lire un bouquin pour l'instant qui s'appelle The Comedy Bible, de Judy, je sais plus son nom de famille, mais c'est Judy. Et,
ah oui, Judy.
Non, mais voilà, c'est une occasion. Ouais. Non, mais c'est vrai, si vous voulez faire du stand-up, et c'est un bouquin qui date un peu, qui est genre des années 90, un truc comme ça, mais qui pourtant reste très d'actualité. Et de toute façon, c'est les années 90 aux États-Unis, donc ça veut dire c'est nous maintenant, quoi.
C'est 2030. Donc,
voilà, c'est 2030, c'est un roman anticipatif au niveau européen. Et enfin, bref. Et du coup, elle dit aussi pareil, si vous arrivez et que vous avez préparé 10 minutes sur la médecine et que en fait t'arrives et c'est que des gens qui se soignent pas. Non, c'est pas ça que je veux dire.
Ils se soignent pas. Très bon exemple. Ouais. On voit ce que tu veux dire.
Parfait. Ok. Et en gros, bah, du coup, tu dois être capable de dire « Ah non, pas du tout, bah, écoute, je vais faire 10 minutes sur les cure-dents. » Ah voilà, parce que voilà, peut-être ils n'ont pas de mutuelle, mais je vois qu'ils ont tous des cure-dents. Donc je vais partir là-dessus. Parce que ce que tu cherches d'abord, c'est quand même à faire rire. Tu vois, la promesse à la base, c'est que tu es humoriste et t'arrives et tu es censé les faire rire. Et donc du coup, ta qualité aussi, c'est de savoir juger une salle et de savoir... dire, ah bah tiens, c'est ça qui va fonctionner avec eux. Et ça, c'est plus important que ce que toi, t'as envie de dire, quoi. Tu vois, le fait de réussir cette connexion est plus important. Enfin, ça dépend parfois, parce que parfois, si t'as un truc à roder, genre t'as un show télé dans 10 jours, et tu dois absolument roder ton 6 minutes télé, on s'en fout, peu importe les conditions, tu vas roder. Et heureusement que tu peux même le tester dans des conditions difficiles, comme ça, il sera encore plus musclé au final, tu vois. Donc ça dépend aussi de tes priorités, aussi du moment, ça c'est clair aussi. Mais ouais, ce que Bill Burr disait, c'est ça aussi, et que cette meuf dit aussi, c'est vraiment... sois prêt à sortir tous tes tiroirs, parce que ça va pas toujours fonctionner, peu importe la qualité du texte, et donc tu dois vraiment être prêt à ça, même si c'est dur, hein, c'est vraiment dur. C'est un peu comme dans Heat, vous souvenez de Heat, le film Heat, avec Val Kilmer et Raph, tu vois,
je vais dire, je sais qu'il y a Val Kilmer, mais Heat, je sais pas, pardon, tu veux dire la chaleur en anglais, H-E-A-T.
Oui, oui.
Ok, oui, je croyais qu'il parlait de Heat, tu vois, le film d'horreur de
avec
Stephen King.
Avec les clowns. Non.
Tu vois le...
Je parle de The Heat, sorry, okay. The Heat.
Oh yeah, oh, you mean The Heat, familier, ok, I get
directement,
it.
Mais qu'est-ce que je veux que je...
Ok, vas-y, ouais.
Heat, avec Robert De Niro et Al Pacino. Et t'as Robert De Niro qui est un gros malfrat dedans de carrière, et t'as Al Pacino qui est le policier de carrière aussi, qui le traque depuis des années. Et je sais plus à qui Robert De Niro explique que, en gros, quand t'es gangster de carrière, tu construis quand même une vie, tu vois, avec une femme et des enfants et tout, et que l'amour, c'est très important. Mais en gros, tu dois être prêt à abandonner tout ça à la première seconde où tu vois un flic dans ton champ de vision. Femme, enfant, tout ce que tu as construit, même depuis des années, s'il y a un flic dans le champ de vision, tu dois être prêt à courir et à partir sans te retourner jamais. Et d'ailleurs, il y a une scène où ça arrive, justement, où il voit Al Pacino et il part, alors qu'il va rejoindre la femme de sa vie et tout, et c'est hyper dramatique.
Tu dis que, donc, dans le film, à un moment, en tant que gangster, on doit être prêt à tout sacrifier pour ne pas se faire arrêter par la police. Ouais. Est-ce que, en tant qu'humoriste, et ça rejoint quelque chose que d'autres humoristes ont déjà dit dans d'autres interviews, est-ce qu'il y a aussi une sorte de sacrifice de la vie privée à faire? Le fait de se dire que, en fait, la vie amoureuse, tout ça, c'est des choses qui passent en second lieu, parce que dans un premier temps, je dois roder mon spectacle, je dois préparer ma chronique, je ne peux pas faire de compromis entre ça et ma vie personnelle, tu vois?
Oui et non, comme dirait l'autre. En gros, mais même en tant qu'artiste, hein, de manière générale, je pense qu'il y a quand même toujours un espèce de compromis à faire, puisque comme c'est pas forcément des horaires 9 to 5 classiques, ben c'est sûr que c'est difficile à faire coordonner ça, sauf si t'es avec quelqu'un qui est aussi dans le monde médiatique ou artistique, c'est difficile à faire coordonner ça avec justement des gens qui ont des boulots plus moins marginaux. Ne fût-ce qu'au niveau des horaires, ne fût-ce qu'au niveau pratico-pratique, genre le stand-up, c'est le soir, et on en parlait justement avec Nathalie Huffner, qui est la directrice du TTO, et Dave Parker, qui disait, par exemple, il disait, ouais, le jour où François Lambrouille fait un spectacle, ce serait un carton, comment ça se fait qu'il le fait pas, Benoît Poulvorde, comment ça se fait que ces gens-là ne montent plus sur scène, parce que, en même temps, ce que ça demande au niveau personnel, c'est pas hyper compatible avec une vie de famille, tu vois, de venir comme un con, ta gueule, tous les soirs à 8h, de sacrifier toutes tes soirées au final pour les passer avec des inconnus, tu vois, parce que le public c'est quand même des inconnus par rapport à tes enfants qui t'attendent chez toi. Et ben, tout le monde n'est pas forcément prêt à le faire. Et moi, c'est vrai que je suis dans un moment où justement, j'ai ni je suis pas marié, j'ai pas d'enfants. Enfin, bref, et c'est un choix aussi pour l'instant. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui, c'est un choix pour me permettre d'avoir un peu la liberté de m'investir à fond dans le stand-up et là-dedans. Mais après, voilà, il y a plein de gens qui sont là-dedans et qui ont réussi à trouver un équilibre et qui ont des vies. Et qui ont des vies parfaitement presque chiantes, hein, en dehors de ça, enfin chiantes au sens, tu vois, par rapport à l'ascenseur émotionnel de la scène, mais je veux dire, tu vois, mais honorable, mais qui, routinière, on va dire, avec famille et enfants. Et il y a parfaitement moyen de trouver, et au Québec, il y a pas mal d'exemples. Un gars comme François Bellefeuille, bah, il a sa femme, il a ses enfants et tout. Et ils sont pleins à avoir, il y a un humoriste, Jim Gaffigan.
Oui, il a une énorme famille, lui, ouais, il a plein d'enfants.
Ouais, qui a full enfant, et ça roule, quoi. Et voilà, même Dieudonné, hein, je veux dire, tout le monde parle de lui. Enfin, tu vois, moi, là, c'est un peu devenu le Voldemort du truc, mais ce gars a 42 000 enfants, quoi. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que voilà, qu'il est aussi parfois mu par des intérêts économiques dans ses choix d'activité. Mais non,
c'est chouette d'utiliser Dieudonné dans un argument de sanité d'esprit et d'équilibre de vie.
Oui, il dévie rapidement. Hein.
On va essayer de poser des questions plus précises.
mais en fait, c'est intéressant parce que je sais pas si tu as vu le spectacle de Thomas Nijol sur Netflix 2.
Non.
Là-dedans, il est très sympa. Et là-dedans, il explique que quand il avait fait son premier spectacle, il était vraiment dans un high, il était vraiment sur un petit nuage, et qu'après, ouais, en sortant de l'endroit où il avait fait ce bon spectacle, en prenant la voiture pour rentrer à son appartement, il n'y avait personne à la maison. Et donc, ça rejoint un peu ce que tu disais au début du podcast, c'est que si... Il disait ne avoir personne avec qui partager, en fait, cette expérience. In fine, tu te retrouves quand même un peu parfois seul dans la chambre de l'hôtel de la ville où tu es actuellement. Si tu n'as pas à long terme au moins quelqu'un pour t'accompagner. Maintenant, comme tu dis, hein, je crois qu'il y a différents modèles qui fonctionnent très bien. Mais moi, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il faut toujours... Je crois que parfois on se dit « Ah, je veux juste avoir du succès, je veux juste avoir du succès, c'est la priorité absolue. » Et dans la poursuite de cette priorité, on perd un peu d'autres choses qui nous tenaient aussi à cœur.
Ouais. Et ça, c'est vraiment... l'idée, c'est de checker à chaque fois quelles sont tes priorités, quoi. Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut se perdre un peu aussi là-dedans, et se dire « Ben voilà, si ma priorité, c'est ça, parce que il y en a plein aussi justement qui, moi j'en parle beaucoup avec mon pote Dave, qui lui, pour qui la vie de famille était d'abord une priorité avant le spectacle, et ben c'est clair que, et du coup tu vas plus investir du temps et de l'énergie dans ta vie de famille ou dans la construction de celle-ci plutôt que dans la construction de ta carrière, et tant pis alors si les choses ne vont pas aussi vite que d'autres et tout, parce que mais on s'en fout après, tu vois, si ta priorité c'est pas de percer à vitesse VV prime, mais plutôt de, je sais pas, d'avoir des relations amicales en or, ou d'avoir une famille en or, mais alors on s'en fout que tu te prennes un bide, tu dis oh, c'est pas grave, de toute façon voilà, moi je rejoins ma femme et mes gosses et mon bonheur il est là, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment où est-ce que tu mets ton foyer émotionnel.
C'est vrai qu'après, comme tu dis, si à un moment il n'y a plus que la scène, si à un moment il y a un moment où ça se passe mal, c'est très dur à encaisser parce que tu n'as que ça.
Ça, c'est vrai, ouais. Et ça, c'est... Voilà. C'est là que on peut enfoncer les portes ouvertes avec l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais c'est vrai que c'est dur. Et donc, ouais. Donc, c'est bizarre parce que parfois, tu peux mettre un truc en priorité et que ce soit ta priorité absolue. Et moi, je me souviens d'une discussion avec Mustapha El Altrassi, qui est extraordinaire sur scène et en impro, et enfin voilà, et qui était venu jouer aux Kings comme ça en scred un peu. Et à la sortie scène, je lui demande mais comment t'as fait pour devenir aussi fulgurant? Après, il a commencé très jeune, hein, mais Mais même, il a dit, c'est vraiment quand j'ai décidé que j'avais plus de plan B, quoi. Et que c'était vraiment, et ça, il y a beaucoup de gens vont dire ça, c'est quand c'est ton plan A, t'as pas de plan, t'as pas de porte de sortie, t'as pas. Et donc là, c'est vraiment le contraire de mettre tous ses œufs dans le même. Enfin, tu vois, c'est vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, du coup, de foncer tête baissée vers un seul truc. Et c'est vrai que c'est là où tu progresses le plus vite, en principe, mais où les murs que tu te prends vont te faire le plus mal parce que en gros, bah, t'es sans filet, quoi, et donc c'est chaud. Mais d'un autre côté, c'est cette zone d'inconfort un peu permanente qui te permet de progresser un peu vite, et parce que justement le risque est plus grand, et donc et tu sais que comme tu n'as que ça, si tu te prends un bide ou quoi, bah, ça va te faire tellement mal que tu vas travailler limite plus pour ne pas que ça arrive, là où tu pourrais te reposer sur tes lauriers quand t'es un peu dispersé.
Eh ben, bonne synthèse, je pense, des deux chemins que tu peux affronter.
Ça vous parle un peu ?
Non, ça, moi, en fait, c'est intéressant parce qu'en effet, moi, par exemple, le stand-up, pour moi, c'est maintenant un hobby. Avec mon métier, avec la production, avec le What the Fun. Rudy et moi, on a aussi pris de plus en plus en notre rôle, et aussi avec nos engagements personnels, chacun de son côté. Et donc la scène, pour moi, c'est quelque chose que je me dis, tiens, je vais écrire quand j'ai le temps, quand j'ai envie, et je n'ai pas spécialement la perspective de vraiment en faire un métier et que ce soit le truc, mon entrée financière et des trucs comme ça. Et donc, d'une certaine manière, j'ai une approche plus relaxe, c'est-à-dire que je me stresse moins, je ne suis pas constamment en train de me comparer aux autres en disant « Ah merde, ça fait 5 ans que j'ai commencé du stand-up, où est-ce que j'en suis maintenant dans ma carrière ? Est-ce que je n'aurais pas déjà dû avoir ça ? Cette personne, elle a commencé 3 ans après moi, maintenant elle est plus loin. » Tu vois, maintenant, c'est vraiment juste, c'est un peu comme jouer au foot. J'aime bien jouer au foot, et je suis pas le meilleur joueur au foot, mais j'aime bien jouer au foot. Je crois que je me débrouille bien, et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais évidemment, avec ça, je vais pas progresser aussi rapidement comme ce que tu disais, que quelqu'un qui se dit, écoute, c'est ça ou rien d'autre. J'ai pas un plan B, je fonce là-dedans. Et donc, je crois que chaque truc a ses avantages et ses inconvénients, et ça dépend aussi des priorités que tu te fixes dans la vie. Et donc, j'avoue que moi, au début, l'idée, c'était juste de faire du stand-up parce que c'était un défi et que je m'étais dit, tiens, je vais voir ce que ça donne. Mais assez rapidement, je me suis dit, en fait, je crois pas que je veux forcément en faire un métier. Je crois que je veux jusqu'à la fin de ma vie pouvoir avoir cette capacité de me dire, tiens, je vais aller dire coucou dans une scène et je vais faire un 10-12 minutes et je vais faire rire les gens et être capable de faire ça et connecter avec un public. Mais on va dire, c'est ce à quoi moi je m'attends. C'est là où je mets la barre. Mais il y a d'autres gens, évidemment, si à un moment tu veux être le meilleur et en faire ton métier, tu peux clairement pas avoir cette approche-là. Sinon, en effet, tu vas jamais l'atteindre. Mais je suis curieux, Rudy, toi, c'est quoi ton approche maintenant au stand-up ?
Bah, comme tu as dit, nos rôles ont évolué. Moi, en tant qu'humoriste, ça reste pour l'instant toujours un hobby. On verra qu'est-ce qui se passe plus tard. Et c'est vrai que dans cette optique-là, je vais pas forcément aller chercher un plan carrière très rapidement et pas facilement l'atteindre. Mais à côté, c'est vrai que moi, je suis plus dans un rôle maintenant de production. Et là, ben, j'ai un objectif de vie. Donc, je suis dans un stress différent. Et quand Raph et moi en discutent, on voit qu'il y a une différence d'esprit. Moi, c'est mon objectif de job, c'est de devenir producteur, c'est d'organiser des événements. Et du coup, bah, je suis plus facilement affecté par des échecs des murs, qui moi sont pas forcément des murs de scène, mais des murs d'événements qui sont annulés par le Covid ou qui ne se remplissent pas ou des problèmes de salle et d'engagement professionnel avec des partenaires, par exemple. Donc je comprends bien aussi que quand ça devient ton objectif, bah, tu ne le regardes plus aussi facilement qu'un hobby de « Ah, c'est trop bien, ce week-end, je vais aller faire un peu de cheval. » Non, il faut que je fasse du cheval tous les jours, sinon je ne deviendrai pas un cavalier. Tu vois ? Et du coup, il y a une relation différente. Et pour moi, il faut faire très attention à ça, parce qu'au bout d'un moment, et j'ai ressenti ça quand je travaillais un peu plus sur scène, c'est que tu perds le fun. Stand-up, ça commence toujours par un hobby. Tu commences pas le stand-up en disant « je vais faire carrière hein. ». Tu viens, tu montes sur scène. Et au début, c'est fun, c'est chouette. Et à partir du moment où ça commence à se professionnaliser, il y a des stress, il y a des problèmes, il y a des engagements. Et alors, le fun disparaît. Et c'est super important de faire attention à s'écouter soi-même. C'est de se dire « attends, là, ça devient plus très fun. Il faut que je me donne une respiration. » Parce que si c'est plus fun pour toi, ça ne va plus l'être au bout d'un moment pour les gens qui t'écoutent non plus. Il faut que tu gardes une espèce d'étincelle, il faut que tu gardes une espèce de flamme en toi, et il faut pouvoir l'alimenter et lui laisser de la place, quoi.
Ouais, et ça, c'est pour ça, moi, je remarque ces derniers temps que je mets un peu ma vie en ordre, on the side, et ça, merci le confinement, les confinements, je sais pas combien ils seront, mais...
Espérons qu'ils sont que deux.
Quoi, ce truc. Ouais, Mais du coup, parce que ça donne du temps pour ça aussi, et c'est vrai que le fait de quelque part être un peu bien dans sa vie, son corps et tout, bah, te permet justement d'être un peu plus relax sur scène et de lâcher prise et de pas être vraiment complètement dépendant de la réaction du public à ce que tu proposes pour déterminer ton bonheur ou ton malheur, parce que ça c'est pas vivable comme situation sur le long terme, quoi, parce que sinon c'est pas gay, quoi, parce que des gens qui finalement à la base n'en ont pas grand chose à foutre de toi, c'est donner beaucoup de pouvoir à des gens qui quelque part ne sont même pas tes proches, et donc c'est cool d'avoir aussi des proches et des chouettes relations, que ce soit ben, déjà avec toi-même très important, mais aussi avec tes proches, pour pouvoir aussi même partager, même si tu n'as que la scène et que tu vois t'es pas trop engagé par ailleurs, mais même si tu n'as que un seul objectif, mais d'avoir des relations saines avec les autres et avec toi-même en dehors de ça, pour que à la fois quand tu te prends des murs, ben c'est pas aussi douloureux que ça, parce que tu sais, bon bah ok, là pendant une heure ou pendant 10 minutes, les gens m'ont regardé ou ont réagi comme si j'étais la pire personne du monde, mais je sais que je ne suis pas la pire personne du monde, parce que regarde mon ami là avec qui je vais boire un mojito et ça va être super. Et d'autre part, même quand ça se passe bien, parce que c'est ça aussi qui peut parfois être bizarrement douloureux, c'est que quand tu n'as qu'un seul objectif et que tu as un succès dans cet objectif là mais que t'es quand même, t'es tout seul dans ton, parce que c'est quand même très solitaire comme activité, tu peux même pas vraiment partager ton bonheur non plus, comme on parlait là tantôt, tu rentres dans ta chambre d'hôtel et comme disait Thomas Njijol, et t'es tout seul, donc là aussi si t'es quand même bien entouré, si en tout cas tu communiques assez, que tu partages avec des gens à quel point ce que tu es en train de faire est important pour toi, ben ils savent se réjouir aussi pour toi quand t'as une réussite qui te tenait à cœur, tu vois, et que du coup ben là justement c'est le bonheur, comme on dit, partagé et multiplié.
C'est l'épisode feel good et deep, recherche profonde de soi, du podcast, hein. On va vraiment aller comment être heureux.
Mais, pardon.
Ouais. je trouve que c'est un des aspects qu'on n'a pas encore beaucoup creusé, qui est le fait que le métier d'humoriste, c'est pas un métier comme les autres, comme tu disais Ino, c'est pas un 9 to 5, c'est un truc dans lequel tu mets tes tripes. Il y a des très hauts, enfin des très grands highs, et il y a des très gros lows. C'est quelque chose. Putain, je vais te rendre compte ce que j'ai dit. Il y a pas des très gros lows. Non, il y a des. Vous comprenez ce que oui. Je veux dire. Ça va. Tu peux
ça
aller
va
très haut
et, ça
haut
va
et très bas.
Voilà.
Exactement. Et c'est quelque chose qui est difficile ou parfois. Et aussi parfois à partager avec.
Et que ça s'en va et que ça s'en vient.
Putain, mais j'allais faire un truc émotionnel. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une activité comme une autre. C'est vraiment un truc complexe. C'est difficile à expliquer aux gens qui ne le font pas. Parfois, c'est dur aussi à communiquer aux gens près de soi, à quel point on a passé une mauvaise soirée, ou à quel point justement on est dans une euphorie complètement exagérée parce que ça s'est beaucoup mieux passé que ce qu'on pensait. Et que c'est aussi quelque chose aussi pour le rythme de vie, rien que ça. Moi je pense aux gens qui comme toi et nous, ils ont choisi de faire ça leur métier principal. Si tu n'as pas des chroniques tous les jours, t'as quand même une semaine très décousue, et donc tu dois toi-même te fixer une discipline,
ouais,
pour dire voilà, maintenant je fais ça, parce que là, en soi il y a seulement une deadline, c'est quand tu dois aller à la radio présenter ta chronique, ou quand le soir tu as une scène. Et encore, il y a un peu ce côté de procrastination, tu peux dire ce soir j'ai pas encore fait le nouveau sketch que j'avais envie de faire, je vais ressortir le bon vieux sketch, le 12 000 qui fonctionne toujours. Et donc c'est dur parce qu'il faut constamment se dépasser soi-même. Il faut s'imposer ça à soi-même, parce que t'as pas un boss qui va te dire t'arrives en retard au taf aujourd'hui. Le seul qui paye les pots cassés, c'est toi-même, quoi.
Ouais, c'est clair. Et du coup derrière ça, ouais, tu dois vraiment créer toute ta discipline professionnelle. Et ça, c'est si vous voulez des conseils là-dessus, c'est pas vraiment à moi qu'il faut.
Et ben ça tombe mal, Ino, parce que justement c'était le nom de notre prochaine rubrique, c'était le business de l'humour et un peu le métier de l'humoriste. Et donc là, ouais, par exemple, comme l'a dit Rudy, ça fait un long moment qu'on l'attendait et il est enfin là. C'est ton spectacle d'une heure, True Story, que moi j'ai pu découvrir. Enfin, je connaissais déjà des séquences, mais j'ai pu le découvrir une première fois en complet cet été, qui selon moi est vraiment excellent. Et donc c'est un peu aussi la consécration pour tout humoriste qui à un moment veut se professionnaliser, c'est de faire un spectacle. Maintenant, Une autre question, la première question, c'est comment est-ce qu'on écrit un spectacle? Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on vend un spectacle?
Et si je peux supposer la question de comment est-ce qu'on écrit un spectacle, pourquoi, comment, ça fait 5 ans que toi, on peut l'attendre ce spectacle, alors qu'à côté, on a vu des artistes sortir un spectacle beaucoup plus rapidement. Quel est ton chemin à toi pour l'écrire?
Mais c'est vrai que moi, ça fait 5 ans. En même temps, j'ai quand même, les premières années, j'ai quand même fait ça fort en dilettante, quoi, le stand-up, tu vois. Vraiment, moi, ça a commencé un peu par hasard, comme t'as dit, avec Dave Parker et tout, qui m'a embarqué dans cette Kings of Comedy Academy. Et puis, je me marrais bien à faire des 10 minutes à gauche, à droite, mais ça n'a pas tout de suite été un objectif de vie ou de carrière ou tout ça, tu vois. Donc dans les deux premières années, j'avais pas vraiment un objectif de spectacle, même si j'ai dû faire une heure pour un truc que j'avais gagné à Remicourt, mais ça me semblait absurde parce que je me voyais pas, moi je faisais ça depuis 6 mois, je voyais pas pourquoi j'allais faire en une fois sortir une heure de spectacle. C'est vrai que moi j'étais déjà à la base, je suis pas quelqu'un de très véloce et
c'est une belle façon de le dire.
Voilà, et du coup, j'étais pas pressé. Après, je suis parti à l'école de l'humour là, entre 2016 et 2018, et c'est depuis que je suis revenu, donc maintenant il y a 2 ans et demi, un truc comme ça, que je me suis dit, ok, bon, là maintenant je vais essayer de faire les choses de manière professionnelle et de construire petit à petit un spectacle. Et je me suis donné 3 ans, en fait, c'est ça. C'est qu'en rentrant en début 2018, je me suis dit, bon, je me donne 3 ans, parce que je savais même pas si j'allais faire ça toute ma vie, tu vois, mais je m'étais dit, je fais ça pendant 3 ans et à fond, je le fais pendant 3 ans, et après on réévalue. Et ça permettait aussi de pas trop, se projeter et se mettre des objectifs incroyables et qui sont du coup parfois un peu décourageants aussi. C'est de se dire, bon, voilà, pendant ce laps de temps, je fais les choses et j'accepte. Tu vois, il y a une première année où je disais oui à tout et donc je faisais plein de scènes dans toutes les conditions possibles. Et puis puis la deuxième année, j'ai essayé d'être un peu plus sélectif, on va dire, et de vraiment construire, là, de penser à l'idée que j'allais construire un 60 minutes. Et donc j'ai fait des 30-30 pendant quasi toute une saison, j'ai fait des 30-30. Et voilà, et là maintenant on entamait la troisième année, donc c'est la rentrée ici, où je me suis dit, bon, bah voilà, avec tout ça, j'ai construit une heure de matériel qui fonctionne bien. Et ça, je pense que je peux la proposer. Après, voilà, évidemment, c'est un peu plus l'école américaine ou, tu vois, ou canadienne de faire les choses petit à petit. Et comme on va dire, enfin voilà, comme vous le savez, il y a deux chemins. Il y a soit tu peux faire très vite un spectacle et écrire une heure et puis le proposer. Genre, tu vois, même Alexandra Pizzagalli, elle a écrit une heure de spectacle parce qu'elle vient du théâtre et de la comédie. Enfin, elle est comédienne et ça fonctionne très bien. Donc après, ça dépend un peu de tes affinités et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un peu deux écoles au niveau. Enfin, il y a l'école européenne où on va vite écrire un spectacle et en gros, tu n'existes pas en tant qu'artiste vraiment tant que tu n'as pas de spectacle. Et l'école plus nord-américaine où là, tu peux être un stand-upper qui cartonne partout si t'as un 30 minutes efficace, tu vois, et tu peux déjà avoir ton nom, aller dans des gros shows, aller dans des shows télé, être reconnu en tant qu'artiste de qualité, même si tu n'as pas encore de spectacle. Et par contre, le moment où tu sors ton spectacle, il faut que ce soit top. Il y a une grosse attente au niveau de la qualité, tu vois, du côté nord-américain, quand tu dis, voilà, j'ai mon one-man show, tu vois, il faut que ce soit vraiment un truc ou de la première seconde à la dernière, il n'y a rien à dire, quoi, tu vois. Et alors que ici, voilà, justement, on va te donner du crédit en tant qu'artiste dès que tu as un spectacle et dire, ok, voilà, ça c'est un artiste sérieux qui travaille bien parce qu'il a un spectacle. Et même si le spectacle n'est pas dingue, on ne va pas t'en tenir tant en rigueur que ça, j'ai l'impression, en tout cas. Mais après, voilà, et donc du coup, bah, moi j'ai été un peu entre les deux, où là je me suis dit, bah voilà, d'une part, je prends mon temps pour roder des petits bouts par petits bouts, et en même temps, je profite quelque part un peu de cette permissivité européenne qui fait que, en gros, je peux sortir un spectacle qui, à mon sens, pour l'instant, n'est pas encore totalement comme je le voudrais, mais c'est pas grave. Voilà, à un moment donné, on va lâcher l'idée du rodage et on se dit, bon, voilà, j'ai un spectacle. Et il va s'améliorer en cours de route, quoi. Il va s'améliorer en cours de route parce que, de toute façon, une fois que t'as une heure, t'as pas une heure, tu vois. C'est ça le truc. Une fois que t'as une heure, enfin, surtout quand tu l'as fait par petits bouts, l'heure, elle va être bien à partir du moment où tu auras du feedback des gens sur ton une heure, tu vois. Donc même si ça fait 10 ans que tu fais des 10 minutes et que tu as tout, mais que tu as mis tes meilleures 10 minutes ensemble et que tu fais 60 minutes qui séparément fonctionnent de ouf, tu sais pas ce que c'est de jouer souvent une heure sur scène. C'est très différent au niveau du rythme, au niveau de l'énergie, au niveau de la connexion avec le public que tu maintiens. Tu vois, c'est la différence entre le sprint et le marathon. Tu vois, donc du coup, ben, toi, tu dois aussi te découvrir en tant qu'artiste sur scène qui joue un spectacle d'une heure ou plus. Et ça, ça devient bon à partir du moment où tu le fais souvent, parce que de toute façon, comme dans tous les métiers, finalement, c'est par la répétition qu'on atteint de la qualité. Donc, à un moment donné, une fois que tu as ton premier une heure, ben, c'est au bout du moment où tu l'as joué, je sais pas, X nombre de fois, que tu as un spectacle vraiment qualitatif. Et tu pars d'une V0 qui devient une V10, et la V10, elle est top, et ça, c'est cool. Donc voilà. Mais après, une fois que tu as déjà fait ça une première fois, je pense que pour le deuxième ou troisième spectacle, et on le voit avec des gens, je sais pas, des Jérémy Ferrari, d'autres gens, qui sortent des spectacles, qui après directement sortent un nouveau spectacle, et ne passent plus par cette phase où tu fais des 10 minutes à gauche, à droite, parce que tu sais déjà ce que c'est. De tenir une heure ou deux sur scène, et donc tu peux parfois te permettre justement de ne plus passer par la phase petit bout pour sortir le spectacle suivant. Mais ça encore, c'est différent, parce que c'est différent en Europe, parce que en Amérique du Nord aussi, tu peux être qui tu veux, tu peux être le Bruce Springsteen du stand-up. Tu vois, hein, franchement, parfois quand on m'écoute parler, on pourrait dire il a de l'énergie, ce petit jeune. Et puis le mec, il te sort Bruce Springsteen, et j'avais pas d'autre équivalent.
Et j'ai la ref, hein.
Moi, ouais, je l'ai pas.
Mais je suis content que vous ayez la ref. Toi, tu l'as pas, Rudy?
Non, je vois pas.
Ah, les Rudy, quoi. Bruce Springsteen, quoi.
Bruce Springsteen, c'est un rocker américain. Born in the USA. Qui, dans les années 80, on l'appelait The Boss. Tu vois, est-ce que tu vois la chanson We Are the World?
Ouais.
C'est celui qui arrive en grouvant comme ça, qui fait. Tu vois pas ce moment-là?
Putain, là, par contre, je vois pas que c'est la façon la plus simple pour lui expliquer qui est Bruce Springsteen, par contre, Nino.
Je vois que je trouverai ça après.
Non, mais c'est horrible. Moi, c'est horrible avec les chansons. Je sens tellement mal que je sais. J'ai ce truc où parfois je dis, ah, tu vois cette chanson-là? Et il y a jamais quelqu'un où, tu vois, si je chantonne un truc, quelqu'un qui va dire, ah oui, je vois, il va dire, ah oui, je vois, et ça va être complètement autre chose. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Et voilà, bref. En tout cas,
donc bon, vous pouvez louer Ino pour des blind tests à la maison avec vos potes. Il est disponible en semaine.
Et voilà, mais bon, bref, tout ça pour dire que même si t'es le Mbappé, voilà, hop, référence contemporaine de l'humour en Amérique du Nord, et que t'as déjà 3 spectacles derrière toi, quand tu vas sortir un nouveau spectacle, eh ben tu vas quand même le tester par petits bouts. Tu vas quand même toujours passer par cette phase comedy club, petit public, nanani nanana. Et Florence Foresti, qui est entre les deux, entre les deux écoles, je veux dire, justement, a fait ça pour son dernier spectacle. Elle a loué des petits endroits avec un public plus réduit, mais sélectif, pour faire du rodage, quoi. Tu vas quand même passer par cette phase de rodage et te dire, ouais, parce que qu'est-ce que tu veux, tu peux, on n'a pas la science. Sinon, ce serait trop facile, quoi. Tu vois, sinon, si à un moment donné, il y avait un moyen de créer quelque chose sur papier chez toi tout seul et de sortir directement et d'être prêt pour l'Olympia, mais on ferait tout ça, enfin je veux dire, et voilà, et je pense que la
c'est marrant, ça me fait penser à un truc que j'avais écouté dans un podcast avec Kian Kojandi, c'est que il avait expliqué qu'après le succès de son premier spectacle, il voulait écrire son deuxième, et que du coup, il arrivait dans les petites scènes de stand-up à Paris pour commencer à roder des trucs, et que parfois, il se cassait la gueule, et que du coup, il disait, c'est un truc qui te ramène quand même... sur la terre ferme, parce que du coup il arrive dans un comic club, c'est le gars qui a fait Bref, c'est Ken que j'en dis, et puis il expliquait qu'il faisait un passage qui se passait pas tellement bien, et puis après lui il y a un gars qui passait qui avait commencé le stand-up il y a 6 mois et puis qui cartonnait, et donc il était là, bon, ça fait du mal à l'ego, mais voilà, c'est une étape obligatoire si tu veux toi-même te dépasser et écrire quelque chose de bien. Ça demande aussi un peu de mettre ton ego de côté et de dire, ben, je vais prendre des risques devant d'autres gens qui peut-être s'attendaient pas à me voir prendre des risques ce soir, quoi.
Ouais, mais de toute façon, c'est un métier où malheureusement, et c'en est le drame et la beauté, mais rien n'est jamais acquis, jamais. Et c'est horrible parce que tu peux avoir 25 ans de bouteille. Tu peux encore te planter lamentablement, et du coup ton ego n'est jamais sécurisé, quoi. Et ça, c'est...
Faut toujours refaire le bronzage.
Faut toujours, tu débronzes tout le temps. Tu vois, à un moment donné, t'es là, tu dis, mais allez, avec le temps, est-ce que je pourrais pas avoir, est-ce qu'il y a pas une formule de maquillage permanent? Merde! Et non, chaque fois, tu perds, tu repères le truc. Et voilà. Mais bon, c'est gay, parce que, en même temps, voilà, tu remontes et tu refais tes trucs, et du coup, t'as le, voilà, c'est contrebalancé par le bonheur qu'il y a à ressortir quelque chose de neuf qui fonctionne parce que tu sais ce que ça coûte, tu sais l'effort que ça demande. Et à chaque fois, du coup, c'est un espèce de petit miracle. Du coup, voilà, c'est ça qui est gay aussi, quoi.
La métaphore du bronzage va vraiment rester après, quoi.
Elle va rester, hein.
C'est le fil rouge, hein. Je pense que, voilà, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Il fallait que ce soit...
Mais avant qu'on clôture, parce que le temps avance quand même, on voulait quand même oui, aborder oui. Le bébé du What the Fun qu'on promeut un peu partout, que sont les anonymes, où, comme Rudy l'a dit, tu tiens le rôle du médiateur de cette soirée, de... anonyme, comme vous y avez dit, misogyne, tout ce qui est possible. Et donc, pour toi, si je ne me trompe pas, c'est une de tes premières expériences devant la pellicule, devant une émission filmée. Explique un peu qu'est-ce que ça a été comme expérience pour toi en tant qu'humoriste. Surtout qu'il faut préciser, le dernier épisode, on l'avait fait avec Florent Lausson, qui est donc un des auteurs de la série qui a joué aussi dedans. Ino, lui, il ne l'a pas écrite. Il a été contacté par les... Je parle de toi comme si tu n'étais pas là. Donc Ino, à qui on pense très fortement.
Le mec qui est vraiment balèze en métaphore, là.
Ouais, voilà, celui-là. Eh ben lui, non, voilà. Donc toi, on t'a proposé ce rôle que tu as accepté, et bien sûr avec brio. C'était, en tout cas, moi j'ai adoré ton personnage. Et comment est-ce que toi tu as vécu cette expérience des anonymes, le fait de jouer pour un humoriste, le fait de jouer un texte écrit par quelqu'un d'autre. C'était quoi comme expérience pour toi? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé?
Mais c'était déjà merci, hein, parce que franchement, c'était une super. Enfin, tu vois, je sais que si Florent ou Gaëtan ou Émilie écoutent le podcast, c'était vraiment cool parce que mais même je pense que eux-mêmes sont peut-être aussi étonnés de voir à quel point tu peux passer d'une idée élaborée comme ça sur un coin de table dans un café à 2 ans plus tard. Bon, ça c'est le truc qui m'a le plus impressionné, c'est le temps que ça prend pour vraiment se matérialiser à quelque chose qui existe vraiment dans la vraie vie. Et voilà, et ça c'est vrai que ça a été la grosse leçon du truc, c'est de se dire putain, mais t'imagines le temps que ça prend et l'énergie que ça demande, les allers-retours entre la production, le je sais pas, le nombre de mails, le nombre de prises de tête parfois pour des détails que ça demande pour une petite web-série de 2 minutes 30. Tu te dis mais oh my god, quand tu dois faire un long métrage où tu dois genre réserver des quartiers de la ville pour faire une course-poursuite en bagnole avec des, enfin tu te dis mais c'est normal que déjà que ça prend autant de temps, mais c'est aussi, du coup, je trouve qu'il y a plus de respect pour tout ce qui existe artistiquement de manière générale, parce que tu dis même les trucs médiocres pour exister ont dû demander énormément d'énergie. Donc c'est déjà en fait le fait que quelque chose existe, c'est déjà fabuleux. Tu vois, c'est comme avoir un enfant. Voilà, il est aveugle, mais il est là. Donc,
les métaphores.
Oh putain. Et ça, non, je crois que c'est la meilleure jusqu'à présent.
Et peut-être qu'il va devenir un super pianiste, on ne sait pas, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, il y a ce truc de voilà, il y a tellement d'obstacles possibles à l'émergence de la vie ou d'un projet créatif que le fait qu'on arrive de l'autre côté et que ça aboutisse est déjà fabuleux. Et donc ça, moi, c'est déjà un truc qui me réjouit profondément de faire partie de cette aventure, parce que pareil, j'ai eu le truc où Florent, Émilie, Gaëtan sont venus, on s'est donné rendez-vous dans un café qui n'existe même plus depuis le... c'est ça qui est marrant, le café où ils m'ont parlé des animes la première fois n'existe plus, c'est devenu une lavrette, enfin bref, et j'ai compris de l'avoir et Wastret, une lavrette, bref, donc le temps que ça a pris, quoi. Et en gros, et maintenant ça existe et je suis hyper fier, parce que je trouve que le truc est canon au niveau qualitatif, l'image, le son, le tout, enfin c'est beau, quoi, c'est un bel objet. Et voilà.
Et toi ton expérience, mais je veux dire toi ton expérience en tant que humoriste qui devait jouer un rôle cette fois-ci, tu vois, parce que bon, d'une certaine manière tu joues un peu ton propre personnage aussi, mais ça doit être quand même vachement différent, que parce que toi tu as pas de background dans le théâtre, donc ça a dû être différent
pas trop,
pour toi.
Je suis un peu en amateur, avec des potes j'avais fait des trucs quand j'étais à l'UNIF, mais vraiment c'était très particulier. Parce que tu sais jamais vraiment si t'es juste, parce que justement, tu vois, quand tu fais du stand-up, bah, tu pars de ton expérience, tu pars de toi et tout. Donc voilà, même si ça marche pas, bah, tu sais, oui, il faut retravailler les blagues, mais tu sais ce que tu veux dire. Et là, parfois, ben, tu voyais la blague, et même parfois, je devais quand même demander, je dis, attends, donc, mais l'intention, c'est quoi? C'est ça? C'est ok. Donc, parfois, j'étais un peu perturbé, parce que c'est quand même un truc un peu absurde, un peu bien, bien barré, comme disent les 65R. Et du coup, il y a ce truc de se dire, ok, est-ce que tu, c'est difficile de juger si t'es juste, en plus, t'as pas de retour public, parce que t'as cette espèce de silence, de plateau, comme ça, tu vois? C'est ça, le truc qui commence par silence. Et puis tout le monde. Et donc, boum, tu dois jouer la scène et qui est censée être une blague, mais personne peut rire. Et donc, tu sais, donc c'est difficile de vraiment juger de si on a été bon ou pas, quoi. Et donc, c'est vraiment que des années plus tard, quand t'as le retour public en différé, que tu dis, ah ouais, ok, ouais, c'est, ok, ouais, c'était pas mal, ou en fait, non, en fait, c'était nul. Et du coup, ouais, ça, c'était particulier. Et c'est vrai que, mais c'était quand même une chouette expérience. C'était gay aussi d'être déchargé de toute la pression de l'écriture et de, tu vois, tu dois juste arriver et dire ton truc. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est cool. Ça, pour une fois, il y a ce côté un peu, enfin, tu vois, tu te sens comme un, je sais pas, un présentateur de touche pas à mon poste. Non, tu te sens comme un présentateur de, tu vois, qui doit lire un prompteur, quoi, c'est ça que je veux dire. Et que t'es pas,
on a juste besoin de toi comme talent de comédien et pas forcément comme auteur, ouais, ou comme gestionnaire,
mais la recherche,
de ton propre projet, quoi.
Ouais, mais la recherche de ah, est-ce que tu vois, parce que évidemment les scènes, ça je savais pas à quel point on les recommence des milliards de fois, et parfois pas uniquement parce que il faut la rejouer parce qu'elle était pas bonne, parce que il faut reprendre pour avoir telle personne en gros plan, pour avoir tel angle, pour avoir pour le son qui a pas été bon, donc pour plein de raisons,
ouais,
en
technique.
Dehors du jeu, il faut recommencer souvent les scènes, et donc du coup j'ai perdu mon je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros que ouais, cette recherche de justesse, elle est gay aussi, que ça s'apparente un peu à quand tu cherches à si quelque chose va fonctionner sur scène, ben là aussi t'as ce truc de, au plus tu recommences, au plus tu dis, ah mais peut-être je pourrais le dire comme ça, peut-être je pourrais dire non au lieu de juste non, et que ça va faire autre chose, et que ah oui, puis alors là même les autres, ils vont dire entre deux prises, ils vont dire ouais, en fait c'était mieux quand t'as dit non comme ça, parce que en gros ça marche mieux avec ce que j'ai dit avant et tout, tu fais ah ouais ok, donc je garde le non, et donc tu, c'est comme ça que petit à petit tu rentres dans ton personnage. Après évidemment, moi avec mon idée un peu perfectionniste de qui est très très discrète, hein, mais qui pourtant existe, au départ le médiateur, je m'étais imaginé tout un background, genre ses parents, ses trucs, l'appartement dans lequel il vivait, avec en imaginant un gars très méthodique et très très un peu sérieux et plat, tu vois. Il faut imaginer, et je peux le dire ici parce que personne l'a remarqué évidemment, que j'ai été chez un coiffeur spécial pendant, moi j'avais des dreads avant, je me suis coupé les cheveux, mon gars, comment c'est quoi la méthode Stanislavski, enfin où tu te mets à fond là,
ah oui,
acteur studio, uniquement pour jouer ce truc de 2 minutes 10 fois, tu vois, et
ah, quel acteur.
Et parce que je m'étais dit, bon, c'est un gars, et donc j'ai été chercher des fringues au petit rien, tu vois, pour avoir des espèces de vieux pulls informes et d'une couleur indéfinissable. Et voilà, pour avoir ce côté un peu sérieux, mais relatable, tu vois, genre, que, tu vois, comme tout le monde allait être un peu fou autour, il fallait ce truc un peu l'église au milieu du village, quoi, donc...
Ouais, voilà. C'est le contraste du personnage aussi qui amène pas mal de blagues, quoi.
Mais après, rapidement, je me suis rendu compte que tout ce background à la con que je m'étais imaginé ne sert pas à grand chose, quoi, tu vois, parce que du coup, tu vois, je lui avais donné un prénom et tout, il s'appelle Thierry dans ma tête. Mais,
révélation pour les fans de la série.
Et du coup, parce que justement, toi, tu te dis, avec tout ce que tu t'es construit, oui, mais sachant qu'il s'est marié et puis qu'il a divorcé et que nanana, la manière dont il va dire non, c'est plus, il va dire non. Et puis on dit non, ça marche pas du tout comme ça. En fait, faut que tu dises non, comme je disais là tantôt. Et du coup, tu dis, ah merde, écoute, ça va pas du tout avec ma backstory. Mais c'est pas grave, on est là pour l'efficacité. Et donc, en gros, on s'en fout de la backstory, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a un sketch très drôle.
Mais c'est vrai que le Actor Studio, pour une web série de 2 minutes 30, c'est dur, en fait. Parce que oui, c'est moins dans la construction de personnages et on va dire des longues scènes avec des grands monologues. C'est plus ici dans des petites punchlines et des scénettes de 10-20 secondes, quoi.
Non, mais c'est ça. Et en plus, ouais, c'est ça. Mais il y a un sketch, je crois, du Saturday Night Live. Je sais plus avec quelle actrice quand même connue. Je sais pas, c'est Gwyneth Paltrow, je sais plus rien. Où justement, il se moque d'une meuf qui est sur un tournage de film porno et qui doit juste faire la belle-mère.
C'est avec Emma Stone.
Ah oui, tu l'as vu? Ouais, qui doit juste faire la belle-mère, ou qui surprend son mari avec un gars, ou je sais plus quoi, et du coup elle s'imagine toute une backstory de ouf, juste pour sa vieille réplique.
Alors qu'elle est simplement figurante sur le film porno, ouais. Elle doit juste être choquée à un moment.
ouais. Et voilà, si vous avez l'occasion de voir ça, c'est rigolo.
C'est sur ce bel exemple de acteur
studio. Évidemment, il fallait que ça termine sur une référence porno, quoi.
Oui, évidemment. Avec toi, c'était évident, tu vois. Ça ou bien, enfin, c'était clair. Mais du coup, on va clôturer donc cet épisode. Avant de terminer, Ino, déjà un tout grand merci d'avoir participé. Ça faisait un petit moment qu'on voulait papoter avec toi. On est très content d'avoir merci pu le vous. Faire. Est-ce que tu peux peut-être rappeler aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent trouver ton actualité? Il me semble, hein, mais je suis pas sûr, mais je crois que t'as un site web.
Oui, alors écoutez, j'en suis très fier. J'ai un site internet. Alors évidemment, c'est 20 ans après tout le monde et j'ai l'impression d'avoir acheté un cratère sur la Lune alors que je ne sais même pas payer mon loyer, mais j'ai virtuellement un endroit qui est chez moi. Et ça s'appelle inojp.com. Inojp.com. Je fais la méthode Nikos, je le répète. Inojp.com. Parce que là-dessus, ben voilà, il y a un peu mon univers et tout. On sait un peu, alors que, enfin voilà, les gens vont pas forcément s'attarder sur un site internet. Mais moi, je sais pas, comme je suis un peu de la vieille école, j'avais envie de mettre des chouettes photos et d'essayer de faire une bio et des choses qui me ressemblent. Voilà. Et donc j'ai fait ça avec une fille super qui s'appelle Manon Zella, qui fait des super sites internet. Si jamais on pouvait la contacter via le site. Mais du coup là, j'ai mon actualité et voilà. Là, pour l'instant, évidemment, tout est arrêté. On a repris des dates aux Kings à la rentrée en janvier, en se disant bah inchallah, voilà, au pire on annule, voilà, comme quand tu rentres dans une relation dont t'es pas sûr, là, tu vois, bah, au pire on divorce.
Bon, donc, ouais, très bonne métaphore.
Et donc voilà, donc j'ai des nouvelles dates une fois par mois à partir de janvier pour mon spectacle True Story. Mais pour l'instant c'est un peu tout au niveau de l'actualité et puis les anonymes évidemment que j'invite tout le monde à les regarder sur Ovio, sur YouTube et sur les réseaux sociaux des typiques.
Super, bah en tout cas aussi nous aussi on peut juste vous encourager d'aller voir le spectacle de Ino, c'est excellent et ça vaut la peine. Rudy, merci, avant de clôturer aussi, merci pour d'être là à chaque fois, Rudy. Merci de rigoler à nos vannes. Merci pour la présentation aussi de Ino. À chaque fois, il prend beaucoup de temps pour creuser dans le passé de notre invité. Est-ce que tu peux peut-être rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent complimenter le meilleur podcast de l'humour francophone en 2020?
Oui, alors pour qu'un podcast vive, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux, éventuellement y mettre des étoiles si vous écoutez ça sur une plateforme qui met des étoiles. N'hésitez pas surtout à revenir vers nous avec un petit message sur Facebook, Instagram ou par mail sur comment est-ce que vous appréciez le podcast, sur ce que vous auriez envie de savoir un peu plus sur les invités qu'on a, sur qui est-ce que vous avez envie d'inviter. Et il faut savoir qu'ici, on avait une liste d'une grosse vingtaine de questions à InnoJP et on lui en a posé genre 4. Donc si vous voulez revoir InnoJP pour lui poser d'autres questions, ça fait partie de ce genre de choses que vous pouvez nous envoyer par message.
Super! Eh bien, un tout grand merci Rudy, un tout grand merci Ino et un grand merci chers auditeurs, c'est chaque fois un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour le prochain épisode de À guichet fermé. Ciao.
Salut.
Ciao tout le monde.